Cinquième partie. Les champs écarlates de Caen à Noret. Chapitre 1. La plaie et la porte. Au revoir, mon ami. 1. Dans les derniers jours de leur long périple, après que Bill, seulement Bill, désormais, non plus Bill le Bègue, les eut déposés à la fédérale, aux limites des terres blanches, Susanna Dean fut soudain sujette à des crises de larmes imprévisibles. Elle sentait monter ses averses intempestives et prenait congé des autres, prétextant devoir s'isoler dans les buissons pour ses besoins naturels. Et là, elle s'asseyait sur un tronc d'arbre mort, se plongeait la tête dans les mains et laissait couler ses larmes. Sir Holland se rendit compte de ce qui se passait, et il n'avait pu que remarquer ses yeux rouges lorsqu'elle revenait sur la route, il ne fit aucun commentaire. Elle supposa qu'il avait vu clair dans son manège. Le temps de Susanna dans l'entre-deux-mondes, et dans le monde ultime, touchait presque à sa fin. 2. Bill les emmena dans sa jolie pelleteuse orange jusqu'à une baraque isolée en préfabriqué avec un panneau fatigué qui indiquait « Antenne fédérale 19, surveillance de la tour, interdiction absolue de dépasser cette zone ». Elle supposait que, d'un point de vue technique, l'antenne fédérale 19 se situait toujours sur les terres blanches d'Empatica. Pourtant, l'air s'était considérablement réchauffé à mesure que la route de la tour descendait et la neige au sol ne formait plus qu'un voile léger. Des bosquets d'arbres constellaient le paysage. Mais Susanna avait l'intuition que le terrain serait bientôt complètement dégagé, comme les prairies du Midwest américain. Ils virent des buissons qui, par temps plus clément, devaient se recouvrir de baies, peut-être même de macereines. Mais pour l'heure, ils étaient encore dénudés et claqués dans le vent incessant. De part et d'autre de la route de la tour, qui autrefois avait été pavée, mais se réduisait aujourd'hui à deux ornières cabossées, ils voyaient essentiellement des herbes hautes perçant la fine pellicule de neige. Elles chuchotaient dans le vent et Susanna reconnaissait leur chant. « Comme à Comala, la fin du voyage est presque là. »
Il se peut que je n'aille pas plus loin, leur dit Bill en coupant le moteur de la pelleteuse et en interrompant Little Richard en plein délire. Je dis pardon beaucoup, comme on dit dans l'arc des terres frontalières.
Le voyage leur avait pris une journée entière et la moitié d'une autre, et durant tout ce temps, il les avait divertis avec ce qu'il appelait des vieux succès. Certains n'étaient pas vieux du tout pour Susanna. Des chansons telles que Sugar Shack et Heatwave passaient régulièrement à la radio quand elle était rentrée de son escapade dans le Mississippi. Parmi les autres, certaines lui étaient totalement inconnues. La musique n'était plus stockée sur des vinyles ou des cassettes, mais sur de beaux disques argentés que Bill appelait « des CD ». Il les poussait dans une fente dans le tableau de bord suréquipé de la pelleteuse, et la musique était diffusée par au moins 8 haut-parleurs différents. N'importe quelle musique lui aurait fait plaisir, du moins c'est ce qu'elle se disait, mais elle se sentit particulièrement transportée par 2 morceaux qu'elle ne connaissait pas. Le premier était un petit rock surexcité et diablement joyeux intitulé « She Loves You ». L'autre, plus triste et pensif, avait pour titre « Hey Jude ». Roland avait l'air de connaître cet air, car il chantait en même temps, bien que ses paroles à lui fussent différentes de celles du groupe qui s'élevait dans les multiples baffles. Lorsqu'elle posa la question, Bill répondit à Susanna que le groupe s'appelait « Les Beatles ».«
Drôle de nom pour un groupe de rock »,
fit-elle remarquer. Assis à l'arrière, avec côté sur la minuscule banquette de la pelleteuse, Patrick lui tapota l'épaule. Elle se retourna et il tendit à hauteur des yeux de la jeune femme le dessin auquel il était en train de travailler. En dessous d'un portrait de Roland de profil, il avait inscrit « Les Beatles », pas « Les Beatles ».
Ça reste un drôle de nom pour un groupe de rock, quelle que soit la manière dont tu l'écris,
répéta Susanna. Et une idée lui traversa l'esprit.
Patrick, as-tu le don du Shining ?
Lorsqu'il fronça les sourcils en levant les mains, geste qui signifiait « je ne comprends pas », elle reformula sa question.
« Est-ce que tu peux lire dans mes pensées ?»
Il haussa les épaules en souriant. Ce geste signifiait quant à lui « je ne sais pas ». Mais elle avait dans l'idée que Patrick savait, qu'il savait même très bien. 3. Ils atteignirent la fédérale vers midi, et Bill leur servit un très bon déjeuner. Patrick engouffra le sien et alla s'asseoir à l'écart. Otay roulait en boule à ses pieds et se mit à dessiner les autres, assis autour de la table de ce qui avait dû être la salle commune. Les murs de cette pièce étaient tapissés d'écrans de télé. Plus de 300, estima Susanna. Ils avaient dû être conçus pour durer, car certains étaient toujours en état de marche. Ils diffusaient des images des collines et des environs vallonnés de la baraque, ou bien, pour la plupart, de la neige. Sur l'un des écrans, des lignes s'entrecroisaient en ondulant, ce qui donna mal au cœur à Susanna à force de les fixer. Les écrans de neige, leur expliqua Bill, montraient autrefois des prises de vue en provenance de satellites en orbite autour de la Terre. Mais les caméras embarquées avaient lâché longtemps auparavant. Celui aux ondulations capricieuses était plus intéressant cependant. Bill leur raconta que, encore quelques mois plus tôt, on pouvait y voir la tour sombre. Puis d'un seul coup, l'image avait disparu et il n'était resté que ses lignes.
« Ça n'a pas dû plaire au Roi Rouge de passer à la télévision, » commenta Bill, « surtout s'il savait qu'il allait y avoir de la visite. Vous ne revoulez pas un petit canapé ? Il y en a toute une cargaison, je vous assure. Non ? Une soupe, peut-être ? Et toi, Patrick, tu es trop maigre, tu sais. Beaucoup, beaucoup trop maigre. »
Patrick tourna sa feuille vers eux, leur dévoilant un dessin de Bill s'inclinant devant Susanna. Un plateau de petits canapés parfaitement ciselé dans une de ses mains d'acier et dans l'autre une carafe de thé glacé. Comme toutes les œuvres de Patrick, celle-ci allait bien au-delà de la caricature. Pourtant, il l'avait réalisée avec une célérité et une vivacité dans le trait presque surnaturelle. Susanna applaudit. Roland sourit en opinant. Patrick eut un rictus ravi, serrant les dents afin que nul ne voie le trou derrière. Puis il lança le dessin par-dessus son épaule et en entama immédiatement un autre.
« Il y a tout un parc de véhicules à l'arrière, » leur signala Bill. « Et bien que la plupart ne soient plus en état de fonctionner, certains marchent encore. » Je peux vous donner un camion tout-terrain, et même si je ne peux garantir un trajet des plus reposants, je pense que vous pouvez compter sur lui pour vous emmener jusqu'à la Tour Sombre, qui ne se situe qu'à 120 roues d'ici. »
Susanna sentit son estomac faire un grand looping. 120 roues, ce qui représentait environ 150 kilomètres, peut-être un peu moins. Ils étaient bel et bien proches, tellement proches que c'en était effrayant.
« Je vous conseille de ne pas arriver à la tour à la nuit tombée, » poursuivit Bill. « Du moins, c'est ce que je pense, compte tenu du nouveau locataire. Mais qu'est-ce qu'une nuit de plus à camper au bord de la route pour des voyageurs tels que vous ? Pas grand-chose, je dirais. Mais même en tenant compte de cette dernière nuit sur la route, et sauf en cas de panne, ce qui est toujours possible, les dieux savent, vous devriez arriver en vue de votre but en milieu de matinée, au jour de demain. »
Roland réfléchit longuement et posément. Susanna dut s'exhorter à respirer pendant l'attente, car une partie d'elle ne voulait pas.
« Je ne suis pas prête, »
pensait cette partie d'elle. Et il y avait aussi cette partie plus profonde, la partie qui se rappelait dans les moindres détails et nuances ce qui était devenu un rêve récurrent et évolutif, qui pensait autre chose.
« Je ne suis pas censé y aller, pas jusqu'au bout. »
Roland finit par répondre. « Je te remercie, Bill. Nous disons tous grand merci, j'en suis certain. Mais nous allons devoir décliner cette aimable proposition. Si tu devais me demander pour quelle raison, je ne saurais quoi répondre. Hormis qu'une partie de moi pense que le jour de demain, c'est trop tôt.
Cette partie de moi pense que nous devrions parcourir le reste du trajet à pied, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. » Il inspira profondément, puis souffla. « Je ne suis pas encore prêt à me retrouver là-bas. Pas tout à fait prêt. »«
Toi non plus ?» constata Susanna sidérée. « Toi non plus. »
« Il me faut encore un peu de temps pour y préparer mon esprit et mon cœur. Peut-être même mon âme. »
Il fouilla dans la poche arrière de son jean et en sortit la photocopie du poème de Robert Browning, laissé pour eux dans l'armoire à pharmacie de Dandelot.
Il est écrit ici qu'il faut se rappeler les temps anciens avant de s'engager dans une nouvelle bataille ou dans le dernier combat. C'est bien dit. Et peut-être que tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de ce dont parle ce poète. Une bonne rasade de vision ancienne et heureuse. Je ne sais pas. Mais à moins que Susanna ait une objection, je pense que nous irons à pied.
« Susanna n'a pas d'objection, » dit-elle calmement. « Susanna dit qu'il faut faire ce que recommande le médecin. Là où Susanna pourrait avoir une objection, c'est si on la traîne derrière comme un vieux pot d'échappement foutu. »
Roland lui adressa un sourire reconnaissant et distrait. Il semblait s'être isolé d'elle, bizarrement, au cours des derniers jours. Puis il se tourna vers Bill.
« Je me demandais si tu aurais un chariot que je pourrais tirer, car il nous faudra prendre au moins un petit Gunnar, et il y a Patrick. Il ne pourra pas marcher tout le long. »
Patrick afficha un air indigné. Il tendit un bras devant lui, serra le poing et banda les muscles. Le résultat, un minuscule œuf de caille saillant à hauteur du biceps, dut lui faire honte car il baissa le bras sur le champ. Susanna sourit et tendit la main pour lui tapoter le genou.
« Ne fais pas cette tête-là, trésor. Ce n'est pas ta faute si tu t'es retrouvé enfermé pendant Dieu sait combien de temps comme Hansel et Gretel dans la cabane de l'horrible sorcière.
« Je suis sûr de pouvoir trouver ce genre de choses, » le rassura Bill. « Et ce que je n'ai pas, je peux le fabriquer. Ça me prendra une heure ou deux tout au plus. »
Roland fit un calcul rapide.
« Si nous partons d'ici avec encore 5 heures de lumière devant nous, nous serons peut-être en mesure de parcourir 12 roues, ce que Susanna appellerait 13 ou 14 kilomètres. Encore 5 jours à ce rythme raisonnablement soutenu et nous atteindrons cette tour que j'ai passé ma vie à chercher. J'aimerais y arriver au moment du coucher du soleil, si je le peux. » Car c'est l'heure à laquelle je l'ai toujours vue dans mes rêves. Susanna ?
Et la voix à l'intérieur. Cette voix profonde chuchota.
4 nuits. 4 nuits à rêver. Ça devrait être assez. Peut-être même plus qu'assez.
Bien sûr, le cas voudrait intervenir. S'il s'était bel et bien placé hors de son influence, ça n'arriverait pas. Ça ne pourrait pas arriver. Mais Susanna pensait à présent que le cas influait sur tout, même sur la tour sombre. Peut-être même était-il incarné par la tour sombre.
« Ça me va, »
dit-elle d'une toute petite voix.
« Patrick ?» demanda Roland. « Qu'en dis-tu ? »
Patrick haussa les épaules et agita une main dans leur direction, en levant à peine les yeux de son bloc. « Tout ce que vous voudrez, » signifiait ce geste. Susanna avait l'impression que Patrick ne comprenait pas grand-chose à cette histoire de tour sombre et qu'il s'en moquait. Et pourquoi s'en serait-il soucié ? Il était libéré du monstre et il avait le ventre plein. Voilà qui lui suffisait. Il avait perdu sa langue, mais il pouvait dessiner tout son sou. Elle était persuadée que pour Patrick, ça paraissait un marché équitable. Et pourtant... Lui non plus n'est pas censé y aller. Ni lui, ni Othé, ni moi. Mais qu'adviendra-t-il de nous alors ? Elle n'en savait rien. Mais elle ne s'en inquiétait bizarrement pas. Le cas le dirait. Le cas et ses rêves. 4. Une heure plus tard, les trois hume, Le bafouilleux et Bill le robot se tenaient agglutinés autour d'un chariot découpé en deux qui évoquait une version légèrement plus grande du taxi de luxe de Hoffat. Les roues étaient hautes mais étroites et tournaient magnifiquement. Susanna se dit que, même chargé à ras-bord, il serait aussi léger à tracter qu'une plume. Du moins tant que Roland serait en forme. Il dépenserait indéniablement de l'énergie à le tirer à flanc de colline, mais dans la mesure où il mangerait les vivres qu'il transportait, le Hoffat 2 serait bientôt de plus en plus léger. Et elle ne pensait pas qu'il rencontrerait beaucoup de collines de toute manière. Ils étaient arrivés sur les terres dégagées, les terres de prairies. Les crêtes enneigées et boisées étaient derrière eux. Bill lui avait dégoté un petit véhicule électrique qui tenait plus du scooter que de la voiturette de golf. C'en était fini pour elle d'être traînée comme un vieux pot d'échappement foutu.
« Si vous me donnez encore une demi-heure, je peux lisser ça », dit Bill en passant sa main à trois doigts d'acier sur le bord inégal, là où il avait découpé en deux le wagon pour en faire le Hoffat 2.
« Nous disons grand merci, mais ce ne sera pas nécessaire, » intervint Roland. « Nous poserons une ou deux peaux par-dessus, ça ira très bien. »
« Il est impatient de repartir, » se dit Susanna. « Et après tout ce temps, comment ne pas l'être? Moi-même, je ne demande qu'à m'en aller. »«
Eh bien, si vous le dites, » répondit Bill d'un air mécontent, « j'imagine que je déteste l'idée de vous voir partir. Quand reverrai-je des Humes ?»
Aucun d'eux ne répondit à cette question. Il n'en savait rien.
« Il y a une sirène très puissante sur le toit, » reprit Bill en désignant la fédérale. « Je ne sais pas quel genre de danger elle était censée signaler, des fuites radioactives peut-être bien, ou une attaque quelconque. Mais ce que je sais, c'est que le son portera sur 100 roues au moins, voire plus si le vent souffle dans la bonne direction. » Si je devais voir ce gaillard qui vous suit, ou si les détecteurs de mouvement encore en état devaient le repérer, je déclencherais l'alarme. Vous l'entendrez peut-être.
Merci, dit Roland.
En y allant en camion, vous le distanceriez sans difficulté, fit remarquer Bill. Vous arriveriez à la tour sans avoir eu à le revoir.
C'est assez vrai, admit Roland.
Mais sans faire mine une seconde de changer d'avis. Ce qui réjouit Susanna.
Que ferez-vous de celui que vous appelez son père rouge, si c'est bien lui qui commande quand Can aurait ?
Roland secoua la tête, bien qu'il eût évoqué ce cas de figure avec Susanna. Il pensait qu'il leur serait peut-être possible d'encercler la tour de loin et de s'approcher de sa base en choisissant un angle invisible depuis le balcon où était retenu le roi cramoisi. Alors il pourrait se frayer un chemin jusqu'à la porte située en dessous de lui. Il ne saurait si ce plan était réalisable qu'une fois qu'il verrait la tour et la configuration des alentours, bien sûr.
« Eh bien, il y aura de l'eau, si Dieu le veut, »
dit le robot anciennement connu sous le nom de Bill le Bègue.
« En tout cas, c'est ce que disaient les anciens. Et peut-être vous reverrai-je, du moins dans la clairière au bout du sentier. » Si les robots sont autorisés à s'y rendre, j'espère que ce sera le cas, car il y a tant de gens que j'ai connus que j'aimerais revoir. »
Il avait l'air si triste et délaissé que Susanna s'approcha de lui et tendit les bras pour qu'il la soulève, sans penser une seconde à ce qu'avait d'absurde l'envie de câliner un robot. Mais il la souleva, et elle le câlina, avec une certaine ardeur. Bill compensait le mauvais souvenir laissé par le vicieux Andy de Calabrine Sturgis, et rien que pour cette raison, il méritait une bonne embrassade. Tandis que ses bras se refermaient autour de la jeune femme, il vint à l'esprit de cette dernière que Bill pouvait la briser en deux avec ses bras en acier et titane, s'il lui en prenait l'envie. Mais l'envie ne lui en prit pas. Il fut très doux.
« Que tes journées soient longues, « et tes nuits plaisantes, Bill, »
dit-elle,
« que tout aille bien pour toi, et nous le souhaitons tous. »«
Merci, madame, » répondit-il en la reposant. « Je dis grand-mère, je dis grand-mère, je dis whip !»
fit-il en se frappant la tête dans un grand fracas métallique.
« Je dis grand merci bien sincèrement. Il marqua une pause. « J'ai pourtant réparé ce bégaiement, je dis vrai, mais comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne suis pas dépourvu d'émotion. »
5. Patrick les surprit tous les deux en choisissant de marcher pendant près de 4 heures à côté de la voiturette électrique de Susanna, au bout desquelles il se sentit fatigué et monta à bord de Ofat 2. Ils écoutèrent attentivement, s'attendant à tout moment à entendre résonner la sirène, les avertissant que Bill avait vu Mordred, ou que les instruments de la fédérale l'avaient détecté. Mais rien ne se produisit. Et pourtant le vent soufflait dans leur direction. Lorsqu'arriva le crépuscule, ils avaient laissé derrière eux les dernières traces de neige. Le paysage continuait de s'aplanir, et leurs ombres s'y projetaient de plus en plus longues. Lorsqu'ils finirent par établir leur campement pour la nuit, Roland ramassa suffisamment de buissons pour allumer un feu, et Patrick, qui s'était assoupi, se réveilla cependant assez longtemps pour engouffrer un énorme repas à base de grosses saucisses et de haricots blancs. En voyant les faillots disparaître dans la bouche sans langue de Patrick, Susanna nota mentalement de penser à ne pas poser sa peau de cerf sous le vent et derrière Patrick, quand viendrait l'heure de dormir. Elle et Otay mangèrent de bon cœur, mais Roland toucha à peine au contenu de son assiette. Lorsque le dîner fut terminé, Patrick s'empara de son bloc et se remit à dessiner, fronça les sourcils en constatant l'état de son crayon, puis tendit la main vers Susanna. Elle savait ce qu'il voulait, et sortit le bocal en verre du petit sac d'effet personnel qu'elle gardait sur l'épaule. Elle y tenait car s'y trouvait l'unique taille-crayon de leur Guna, et qu'elle craignait que Patrick le perde. Bien sûr, Roland pourrait aiguiser ses crayons de la pointe de son couteau, mais cela altérerait la qualité des mines. Elle renversa le bocal, faisant rouler dans le creux de sa paume les gommes et les trombones, ainsi que l'objet de sa recherche. Puis elle le tendit à Patrick, qui aiguisa son crayon de quelques tours de poignet brefs et précis, puis lui rendit son bien et s'empressa de retourner au travail. Susanna contempla pendant quelques instants les petites gommes de caoutchouc rose, et se demanda une nouvelle fois ce qui avait bien pu pousser dans de l'eau à prendre la peine de toutes les couper. Pour narguer le garçon? Ça n'avait visiblement pas marché. Plus tard dans sa vie, peut-être, lorsque les connexions sublimes entre son cerveau et ses mains de génie se rouilleraient quelque peu, lorsque le monde minuscule mais indéniable de son talent aurait changé, Patrick aurait peut-être besoin de gomme. Pour l'heure, même ses erreurs persistaient à être des sources d'inspiration. Il ne dessina pas longtemps. Lorsque Susanna le vit dodeliner de la tête au-dessus de son œuvre, dans l'éclat orange du coucher de soleil finissant, elle retira la feuille de ses doigts consentants et coucha le jeune garçon à l'arrière du chariot, calé contre un rocher providentiel qui saillait du sol. Puis elle le recouvrit de peau de cerf et l'embrassa sur la joue. Tout engourdi de sommeil, Patrick tendit le bras et toucha la plaie près de la bouche de Susanna. Elle grimaça mais ne recula pas sous la caresse. Le bouton avait de nouveau fait une croûte, mais les élancements étaient terribles. Même sourire la faisait souffrir ces derniers jours. La main retomba et Patrick se rendormit. Les étoiles s'étaient levées. Roland scrutait le ciel d'un air captivé.
« Qu'est-ce que tu vois ?»
lui demanda-t-elle.
« Qu'est-ce que tu vois, toi ?»
répondit-il. Elle leva la tête vers la voûte céleste étincelante.
« Eh bien, » dit-elle, « nous avons le vieil astre et la vieille mer, mais on dirait qu'ils se sont déplacés à l'ouest. Et là, oh mon Dieu !»
Elle posa les mains sur les joues mal rasées du pistolero. Il semblait ne jamais avoir de vraie barbe. Il piquait juste un peu et lui tourna le visage.
Cette constellation n'était pas là quand on a quitté le rivage de la mer occidentale. Je sais qu'elle n'était pas là. Cette constellation-là, elle vient de notre monde, Roland. On l'appelle la Grande Ourse.
Il hocha la tête.
Et autrefois, si l'on en croit les plus vieux livres de la bibliothèque de mon père, Elle apparaissait également dans le ciel de notre monde. On l'appelait l'ours de Lydia. Et voici qu'elle est de retour.
Il se tourna vers Susanna, le sourire aux lèvres.
Encore un signe de vie et de renouveau. Comme le roi cramoisi doit détester lever les yeux de sa prison pour la voir de nouveau chevaucher les cieux.
6. Peu de temps après, Susanna s'endormit
et rêva.
7. Elle est de nouveau à Central Park, sous un ciel gris et lumineux, d'où se mettent à tourbillonner les premiers flocons de neige. Non loin, une chorale chante non pas « Ô douce nuit », cette fois-ci, « Ô what child is this », mais la chanson du riz. Le riz nous tombe dans les bras, dans nos poches tout droit. Mamselle et son damsoi, couchés dans les roseaux. Elle retire son bonnet avec la peur irrationnelle qu'il ne soit plus le même, mais il est toujours écrit « Joyeux Noël ». Et pas de jumeaux ici. Elle en est soulagée. Elle regarde autour d'elle et voit Eddie et Jack debout là, lui souriant de toutes leurs dents. Ils sont tête nue. C'est elle qui a leur bonnet. Elle qui a fait un mélange de leur bonnet. Eddie est vêtu d'un sweatshirt qui dit « Je bois du Nosala ». Jack en porte un qui dit « Je conduis une Takuro Spirit ». Rien de tout ça n'est vraiment nouveau. Mais ce qu'elle aperçoit derrière eux, près d'une ruelle débouchant sur la 5e avenue, est en revanche tout à fait nouveau. Il s'agit d'une porte d'environ 2 mètres de haut, taillée dans du bois de fer massif à première vue. Le bouton est d'or massif et est orné en filigrane d'un motif que la dame pistolero finit par reconnaître. 2 crayons en croix. Des Eberhard Faber II, à n'en pas douter, et dont les gommes ont été coupées. Eddie lui tend un gobelet de chocolat chaud. C'est le chocolat parfait. Mitschlag sur le dessus et une pluie de noix de muscade râpée pailletant la crème. « Tiens, » dit-il, « je t'ai apporté du chocolat chaud. » Elle ignore son offre. Elle est fascinée par la porte.
« C'est la même que celle qu'on a vue sur la plage, n'est-ce pas ? »
demande-t-elle. « Ouais, » répondit Eddie.
« Non, »
répondit Jack d'une même voix.
« Tu verras par toi-même, »
disent-ils à l'unisson. Et il se sourit, ravi. Elle passe devant eux. Sur les portes par lesquelles Roland les avait tirées à lui étaient respectivement gravées les inscriptions « Le prisonnier »,« La dame d'ombre » et « Le pousseur ». Sur celle-ci, elle lit « Oxo Ox », »,« L'artiste ». Elle se retourne vers eux, mais ils ont disparu. Central Park a disparu. Elle contemple la décrépitude de l'Eude. Elle contemple les terres perdues. Et portée par une brise glaciale et amère, elle entend 7 mots murmurés. La fin est presque là. Dépêche-toi. 8. Elle se réveilla dans un état proche de la panique, se répétant « Il faut que je le quitte et je ferai mieux de le faire avant même qu'apparaisse sa tour sombre à l'horizon. Mais où irai-je? Et comment le laisser affronter seul à la fois Mordred et le roi cramoisi avec Patrick pour seule aide ?» Cette perspective met au jour une amère certitude. S'il devait y avoir une épreuve de force, Othé se révélerait sans doute plus précieux que Roland pour Patrick. Le bafouilleux avait prouvé de quel métal il était fait en maintes occasions et aurait été digne du titre de pistolero s'il avait eu un pistolet. Et la main pour dégainer le dit pistolet. Alors que Patrick était un, eh bien, un pastelero. Plus rapide que les flammes bleues, il est vrai, mais on ne tuait pas grand monde avec un Eberhard Faber, à moins qu'il soit très bien taillé. Elle s'était assise. Appuyée contre son petit scooter et montant la garde, Roland n'avait rien remarqué. Et elle ne voulait pas qu'il remarque quoi que ce soit. Il y aurait des questions.
Elle se rallongea, tirant ses peaux contre elle et repensant à leur première chasse. Elle se rappela comment le jeune cerf avait viré de trajectoire pour venir droit sur elle et comment elle l'avait décapité avec un oriza. Elle se remémora le sifflement dans l'air frais. Ce sifflement produit par le vent qui venait se glisser à travers la petite attache située sous le plat, cette petite attache qui ressemblait tellement au taille-crayon de Patrick. Elle se dit que son esprit essayait d'établir un lien, mais elle était trop épuisée pour deviner de quel lien il pouvait s'agir. Et peut-être aussi qu'elle essayait trop fort. Et si tel était le cas, qu'est-ce qu'elle pouvait bien y faire? Il y avait au moins une chose qu'elle savait, qu'elle avait retenue de leur séjour à Calabrin Sturgis. Le sens des symboles inscrits sur la porte était « dérobé ». La fin est presque là. Dépêche-toi. C'est le lendemain que vinrent ses premières larmes. 9. Il y avait encore au bord de la route des tas de buissons derrière lesquels elle pouvait aller se réfugier pour ses besoins naturels et pleurer tout son soûl quand elle ne parvenait plus à se retenir. Mais le terrain continuait de s'aplanir et de se dégager. Lors de leur deuxième jour de route, vers midi, Susanna aperçut ce qu'elle prit d'abord pour l'ombre d'un nuage qui se déplaçait sur la terre, loin devant, à ce détail près que le ciel était d'un bleu limpide, d'un bout à l'autre. Puis la grande tache noire se mit à virer de bord, pas du tout à la manière d'un nuage. Elle retint son souffle et immobilisa son petit scooter électrique.
« Roland !» appela-t-elle. « J'aperçois là-bas un troupeau de buffles, peut-être même de bisons. Aussi sûr que un et un font deux. »«
Si fait, tu dis ainsi ?» répondit Roland avec un intérêt très fugitif. « On les appelait des bannocks, et il y a bien long. C'est un troupeau de belle taille. »
Patrick était assis à l'arrière de Ophat 2, à dessiner comme un fou. Il changea sa prise sur le crayon qu'il tenait, le glissant à l'intérieur de sa paume et ombrant le dessin avec le bout. Elle sentait presque la poussière que soulevait le troupeau, tandis qu'il l'estompait du doigt, frottant le voile de graphite. Il sembla néanmoins à Susanna qu'il avait pris la liberté de rapprocher les animaux de 10 ou 15 kilomètres par rapport à la réalité, à moins que la vision du jeune garçon ne fût bien plus perçante que la sienne. Ce qui, se dit-elle, était tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, ses yeux à elle s'étaient habitués et elle les voyait désormais beaucoup plus distinctement. Leurs grosses têtes à longs poils, et même leurs yeux noirs.
« On n'a pas vu de troupeau de buffles de cette taille en Amérique depuis presque un siècle, » dit-elle.
« Si fait, » fit-il du même ton poli. « Pourtant, il y en a pléthore ici, je dirais. » « Si un petit tête vient à notre portée, tirons-en un ou deux. J'aimerais bien goûter un peu de viande fraîche qui ne soit pas du cerf. Pas toi ?»
Elle laissa son sourire répondre pour elle. Roland le lui rendit. Et il traversa de nouveau l'esprit de Susanna que bientôt elle ne le verrait plus. Cet homme, dont elle avait cru d'abord qu'il s'agissait d'un mirage ou d'un démon, avant d'apprendre à le connaître, à la fois en tête et dandine. Eddie était mort, Jake était mort, et bientôt elle ne verrait plus Roland de Gilead. Serait-il mort lui aussi? Et elle? Elle leva les yeux pour croiser le regard du soleil, afin que Roland se méprenne sur l'origine de ses larmes, s'il devait les voir. Et ils progressèrent vers le sud-est de cette grande terre vide, vers ce pou croissant qu'était la tour, pivot de tous les mondes et du temps même. Poum poum poum, comme à Comala, la fin du voyage est presque là. Cette nuit-là, elle prit le premier tour de garde, puis réveilla Roland à minuit.
« Je crois qu'il est là, quelque part, »
dit-elle en indiquant le nord-ouest. Nul besoin de se montrer plus précis. Il ne pouvait s'agir que de Mordred, tous les autres avaient disparu.
« Surveille bien. »«
Ne t'inquiète pas, » répondit Roland. « Quant à toi, si tu entends un coup de feu, réveille-toi bien et vite. »«
Tu peux compter là-dessus, »
dit-elle en s'allongeant dans l'herbe sèche de l'hiver, derrière Offat II. Elle crut d'abord qu'elle n'arriverait pas à dormir. Elle était toujours perturbée par cette présence hostile qu'elle sentait dans les parages, mais elle dormit bel et bien. Et elle rêva. 10. Le rêve de la deuxième nuit était à la fois semblable et différent de celui de la nuit précédente. Les éléments principaux sont exactement les mêmes. Central Park, le ciel gris, les flocons de neige, les voix qui chantent. Cette fois-ci, c'est « Come go with me », le vieux succès des Delvey Kings. Jake, je conduis une Takuro Spirit. Et Eddie, mais avec un sweatshirt, clic, c'est un appareil photo Shinaro. Eddie a toujours son chocolat chaud, mais il ne lui propose pas cette fois. Elle lit l'inquiétude non seulement sur leur visage, mais dans la tension de tout leur corps. C'est la particularité principale de ce rêve. Il y a quelque chose à voir ou à faire, ou peut-être les deux. Quoi que ce soit, ils attendent d'elle qu'elle le voie ou le fasse, et elle est à la traîne. Une question assez terrible lui vient à l'esprit. Est-ce volontairement qu'elle est à la traîne? Y a-t-il ici quelque chose qu'elle ne veut pas affronter? Serait-il même possible que la tour sombre soit en train de foutre la merde dans la communication? C'est une idée stupide, bien sûr. Ces gens qu'elle voit là ne sont que les fruits de son imagination pleine de nostalgie, après tout. Ils sont morts. Eddie, tué par une balle, et Jack, écrasé par une voiture. Une fois dans ce monde-ci, et une autre dans le monde clé, où on ne rigole pas, et où ce qui est fait est fait. Et c'est logique, puisque le temps ne s'écoule que dans un sens. Et où Stephen King est leur poète lauréat. Pourtant, elle ne peut ignorer cet air sur leur visage. Cet air de panique qui semble lui dire « C'est toi qui l'as, Suze. C'est toi qui as ce qu'on veut te montrer. Tu as ce que tu as besoin de savoir. Tu vas le laisser te filer entre les doigts? C'est le dernier quart. C'est le dernier quart et le compteur continue son tic-tac et il ne s'arrêtera pas. Il doit continuer parce que tous tes temps morts sont écoulés. Tu dois te dépêcher. » Dépêche-toi. 11. Elle se réveilla en sursaut, essoufflée. L'aube était presque là. Elle se passa la main sur le front et elle revint couverte de sueur.
Que veux-tu que je sache, Eddie? Qu'est-ce que tu cherches à me faire savoir?
À cette question, point de réponse. Et comment aurait-il pu y en avoir?
Missy Dean, lui, est mort,
se dit-elle en se rallongeant. Elle resta ainsi encore une heure, mais sans pouvoir se rendormir. 12. Tout comme Offat I, Offat II était équipé de poignées. Mais à la différence de celle de Offat I, celle-ci était réglable. Lorsque Patrick avait envie de marcher, on pouvait dissocier les poignées de sorte qu'il en tira une et Roland l'autre. Lorsque Patrick ne voulait plus marcher, Roland ajustait de nouveau les poignets et les tirait tout seul. Vers midi, ils s'arrêtèrent pour déjeuner. Quand ils eurent terminé, Patrick rampa à l'arrière de Offat II pour faire un somme. Roland attendit que le garçon, car c'est ainsi qu'il continuait de penser à lui, quel que fût son âge, se mit à ronfler pour se tourner vers Susanna. «
Qu'est-ce qui t'esgraffigne, Susanna ? « Je voudrais que tu m'en fasses part, que tu me le dises, Dan Dean, même si notre tête n'est plus, et que je ne puis plus être appelé ton Dean. »
Il sourit. La tristesse dans ce sourire brisa le cœur de la jeune femme, et elle ne parvint plus à retenir ses larmes, ni la vérité.
« Si je suis encore avec toi, au moment où tu atteindras ta tour, Roland, c'est que tout aura mal tourné. »
Comment ça, mal tourné?
Elle secoua la tête, sanglotant ouvertement.
Il est censé y avoir une porte. C'est la porte dérobée. Mais je ne sais pas comment la trouver. Eddie et Jack viennent à moi en rêve me dire que je sais. Ils me le disent avec le regard, mais je ne le sais pas. Je jure que je ne le sais pas.
Il la prit dans ses bras, la serra contre lui et l'embrassa sur la tempe. Au coin de sa bouche, Susanna sentait le feu et les élancements dans la plaie. Elle ne saignait plus, mais enflait de nouveau. « Qu'il en soit ainsi qu'il se doit, » dit le pistolero, comme le lui avait dit autrefois sa mère. « Qu'il en soit ainsi, et chut, laissons le cas œuvrer. »
« Tu disais que nous étions au-delà du cas. »
Il la berça dans ses bras, la berça encore et cela lui fit du bien. Elle s'en sentit apaisée. « J'avais tort, » dit Rolint, « comme tu le sais. » 13. C'était son tour de prendre la première garde, la troisième nuit. Elle scrutait les alentours derrière eux, au nord-ouest, le long de la route de la tour, lorsqu'une main lui agrippa l'épaule. La terreur bondit dans son esprit comme un diable jaillissant d'une boîte.
« Il est dans mon dos. Oh mon Dieu, Mordred m'a surprise par derrière et il est en araignée. »
Et sa main sauta sur son arme et la dégagea du holster. Patrick se recula vivement, son propre visage tordu par la terreur, levant les mains devant lui. S'il avait crié, il aurait sans doute réveillé Rolant et tout aurait été différent, mais il avait trop peur pour crier. Il émit un son de gorge grave, rien de plus. Elle abaissa son pistolet, lui montra ses mains vides, puis l'attira contre elle et le serra dans ses bras. Elle le sentit d'abord se raidir, encore affolée, puis se détendre au bout de quelques instants.
« Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? »
demanda-t-elle, sotto voce. Puis, reprenant inconsciemment à son compte l'expression de Rolant, elle ajouta
« Qu'est-ce qui t'égraffigne ?»
Il s'écarta d'elle et pointa la main plein nord. Au début, elle ne comprit pas, puis aperçut les lumières oranges qui dansaient et fusaient tous azimuts. Elle estima qu'elle se trouvait à 7 ou 8 kilomètres au moins, et elle se demanda comment elle avait pu ne pas les voir plus tôt. Toujours à voix basse, afin de ne pas réveiller Rolant, elle dit
« Ce sont juste des loupiottes, trésor. Ils ne peuvent pas te faire de mal. Rolant les appelle des Hobbs. C'est comme des feux follets, en quelque sorte. »
Mais il n'avait aucune idée de ce qu'étaient des feux follets. Elle le lut dans son regard incertain. Elle décida de lui répéter qu'il ne lui ferait aucun mal et que jamais les Hobbs ne s'étaient approchés plus près. Et lorsqu'elle les contempla de nouveau, ils s'éloignèrent en sautillant, et bientôt la plupart eurent disparu. Peut-être les avait-elle écartés par la pensée. Autrefois, cette idée l'aurait fait hurler, mais plus maintenant. Patrick se détendit peu à peu.
« Pourquoi tu ne retournerais pas dormir, mon chou ? Il faut que tu te reposes. »
Et elle aussi avait besoin de repos, mais elle le craignait en même temps. Bientôt, elle réveillerait Rolant et irait dormir, et alors le rêve viendrait. Les fantômes de Jake et d'Eddie la fixeraient de ce regard frénétique, plus anxieux que jamais, voulant qu'elle sache quelque chose qu'elle ne savait pas et ne pouvait savoir. Patrick secoua la tête.
« Pas encore sommeil ?»
Il secoua de nouveau la tête.
« Alors, pourquoi tu ne dessinerais pas un peu ?»
Dessiner le détendait toujours. Patrick opina en souriant, puis se rendit jusqu'au Hofat 2 pour prendre son bloc en cours, marchant à grands pas de loup un peu exagéré pour ne pas réveiller Rolant, ce qui fit sourire Susanna. Patrick avait toujours envie de dessiner. Elle se disait que c'était une des choses qu'il avait maintenues en vie dans la cave de la cabane de Dans de l'eau, de savoir que de temps à autre cette vieille ordure allait lui donner une feuille et un de ses crayons. Il était aussi accro au dessin qu'Eddie l'avait été à l'héroïne dans ses pires années, sauf que la drogue de Patrick était une ligne de graphite. Il s'assit et se mit à dessiner. Susanna reprit son tour de garde, mais sentit bientôt un fourmillement lui parcourir tout le corps, comme si c'était elle qui était surveillée. Elle repensa à Mordred, puis sourit. Ce qui lui fit mal avec cette plaie de nouveau en train de gonfler, sourire qui lui faisait toujours mal. Pas Mordred, Patrick.
Patrick. C'était Patrick qui l'observait, Patrick qui la dessinait. Elle resta assise, immobile, pendant une vingtaine de minutes. Puis la curiosité l'emporta. Pour Patrick, 20 minutes suffiraient pour refaire la Joconde, peut-être même avec toutes les fresques de la basilique Saint-Pierre en fond pour faire bonne mesure. Ce fourmillement était tellement étrange. C'était une sensation presque plus physique que mentale. Elle s'approcha de lui, mais Patrick commença par serrer la feuille contre son torse avec une timidité inhabituelle. Pourtant, il voulait qu'elle regarde. C'était là, dans ses yeux. C'était presque un regard d'amour, mais elle se dit que c'était de la Susanna qu'il avait dessinée qu'il était tombé amoureux.
« Allez, trésor, »
dit-elle en posant la main sur le bloc. Mais elle n'avait pas l'intention de le lui retirer contre son gré, même si c'était peut-être ce qu'il souhaitait au fond. C'était lui l'artiste. C'est à lui que revenait entièrement la décision de montrer ou pas son travail.
« S'il te plaît ?»
Il garda le dessin contre sa poitrine un petit moment. Puis, timidement, sans la regarder, il le lui tendit. Elle le prit et se regarda. Pendant une seconde, elle eut le souffle coupé tant le dessin était bon. Les yeux larges, les pommettes hautes, que son père appelait les joyaux d'Éthiopie. Les lèvres pleines qu'Eddie aimait tant embrasser. C'était elle. Elle tout crachait, mais c'était aussi plus qu'elle. Elle n'aurait jamais cru que l'amour pût rayonner avec une telle transparence des lignes tracées par un crayon. Pourtant, cet amour était là. Oh, elle disait vrai. Elle disait tellement vrai et sincère. L'amour de ce garçon pour la femme qu'il avait sauvée, qu'il avait tirée de ce trou noir où il serait probablement mort. L'amour pour elle en tant que mère. L'amour pour elle en tant que femme.
Patrick, c'est merveilleux,
s'exclama-t-elle. Il la considéra d'un air inquiet, dubitatif.
Vraiment ?
Lui demandaient ses yeux, et elle comprit soudain que lui seul, le pauvre petit Patrick, incertain à l'intérieur, lui qui avait toujours vécu avec ce don et le considérait par conséquent comme acquis, doutait de la beauté simple et limpide de ce qu'il avait fait. Dessiner le rendait heureux, lui. Il l'avait toujours su. Mais que ses dessins puissent rendre d'autres heureux, il lui faudrait un moment pour se faire à cette idée-là. Elle se demanda une nouvelle fois combien de temps Dandelot l'avait retenu ainsi et comment cette vieille pourriture avait rencontré Patrick la première fois. Elle imaginait qu'elle ne le saurait jamais. En attendant, il lui paraissait très important de convaincre le garçon de sa valeur.
« Oui ?»
confirma-t-elle.
« Oui, c'est effectivement merveilleux. Tu es un artiste de grand talent, Patrick. Regarder ce dessin me procure beaucoup de bonheur. »
Cette fois-ci, il oublia de serrer les dents. Et ce sourire, avec ou sans langue, était si splendide qu'elle aurait pu le manger. À côté de ce sourire, toutes ses peurs et ses angoisses lui parurent soudain dérisoires.
« Je peux le garder ?»
Patrick hocha la tête avec empressement. D'une main, il esquissa un moulinet dans sa direction qui signifiait « Vas-y, déchire-le du bloc, prends-le, garde-le !» Elle le prit puis s'immobilisa. L'amour de Patrick et son crayon l'avaient rendue belle. La seule chose venant gâcher cette beauté était cette excroissance noire près de sa bouche. Elle fit pivoter le dessin vers lui, tapota l'emplacement de la plaie, puis la toucha sur son propre visage. Et fit la grimace. Le moindre effleurement la faisait souffrir.
« C'est la seule chose qui cloche, » dit-elle.
Il haussa les épaules, levant ses mains ouvertes à hauteur des épaules, et elle ne put s'empêcher de rire. Une réplique tirée d'un vieux film lui vint à l'esprit.
« Je peins ce que je vois. »
Sauf qu'il ne s'agissait pas de peinture, et elle se rendit soudain compte qu'il pouvait se débarrasser de cette fichue horreur, sur le papier du moins.
« Alors elle sera ma jumelle, »
se dit-elle dans un élan d'affection.
« Ma bonne moitié. Ma jolie sœur jumelle.
et soudain elle comprit. Tout ? Comprit tout ? Oui, se dirait-elle bien plus tard. Pas de manière cohérente, pas sous forme d'équation. Si A plus B égale C, alors C moins B égale A et C moins A égale B. Mais oui, elle comprit tout. Elle intuita tout. Pas étonnant que Lady et le Jack de son rêve se soient montrés impatients, c'était tellement évident. Patrick, qui lui tirait le portrait. Et ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait tirée. Roland l'avait tiré dans son monde, par la magie. Eddie l'avait tiré à lui, par l'amour, tout comme Jake. D'où Jésus avait-elle cheminé si longtemps et traversé tant d'épreuves sans savoir ce qu'était réellement le cathète, ce qu'il signifiait? Le cathète, c'était la famille. Le cathète, c'était l'amour. Tirer le portrait, c'était dessiner avec un crayon ou du fusain. Tirer au pistolet, c'était leur voix à tous depuis que Roland les avait tirés de leur monde respectif. Attirer, c'était aussi fasciner, envoûter, tirer en avant, sortir quelqu'un de soi. Les drawers, et il lui apparut soudain clairement que ce terme signifiait « tireur », mais aussi « dessinateur » en anglais. C'était là que Détat allait se satisfaire, là qu'elle attirait les hommes. Patrick, ce jeune génie sans langue, enfermé dans le désert, libéré par son art, Patrick, le drawer. Et maintenant ? Maintenant ? Maintenant, voici venue l'heure des grandes occasions, se dit Susanna au Détat d'État. Et elle alla chercher dans sa poche le petit bocal, sachant exactement ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Lorsqu'elle retendit le bloc à Patrick sans en avoir arraché son portrait, Patrick eut un air très déçu.
« Nenny, Nenny !»
dit-elle, et d'une voix qu'elle partageait toute.
« C'est juste que je voudrais que tu fasses quelque chose avant de le prendre pour ma ravissante, pour ma précieuse, pour mon éternel, pour le garder et me rappeler à quoi je ressemblais dans ce « où » et dans ce « quand ».
Elle lui tendit l'un des petits morceaux de caoutchouc rose, comprenant maintenant pourquoi Dandelot les avait découpés. Car il avait une excellente raison à cela. Patrick prit ce qu'elle lui donnait et fit tourner le petit bout moelleux entre ses doigts en fronçant les sourcils, comme s'il n'avait jamais vu de sa vie une chose pareille. Susanna était sûre que si, pourtant. Mais combien d'années auparavant ? Savait-il combien il avait été prêt de se débarrasser de son bourreau une fois pour toutes ? Et pourquoi Dandelot ne l'avait-il pas tué tout simplement à l'époque ? Parce qu'une fois qu'il lui avait retiré les gommes, il pensait être à l'abri, en conclut-elle. Patrick l'observait, perplexe, bouleversé même. Susanna s'assit à ses côtés et désigna la plaie sur le dessin. Puis elle plaça délicatement les mains autour du poignet de Patrick et l'approcha du papier. Il commença par résister, puis la laissa guider la main qui tenait la petite gomme rose. Elle repensa à l'ombre sur la terre. Cette ombre qui n'était pas une ombre du tout, mais un troupeau de grandes bêtes hirsutes que Roland appelait Bannock. Elle se rappela cette impression qu'elle pouvait sentir la poussière, au moment précis où Patrick s'était mis à dessiner la poussière. Et elle se rappela également que, quand Patrick avait dessiné le troupeau de plus près, « Ah, la licence artistique, disons tous grand merci, il avait paru plus près. » Elle se rappela s'être dit que ses yeux s'étaient habitués et avaient vu plus clairement, et sa propre stupidité la stupéfia. Comme si les yeux pouvaient s'adapter à la distance, comme s'ils s'adaptaient à l'obscurité. Non. C'est Patrick qui les avait rapprochés. Il les avait rapprochés en les dessinant plus près. Lorsque la main tenant la gomme fut sur le point d'entrer en contact avec le papier, elle retira sa propre main. Il fallait que ce soit l'œuvre de Patrick, et de Patrick seul, elle en était convaincue. Elle fit un mouvement de va-et-vient avec ses doigts, mimant ce qu'elle voulait. Il ne comprit pas. Elle mima de nouveau, puis désigna la plaie près de sa lèvre charnue.
« Fais-la disparaître, Patrick, »
dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix.
« C'est laid. Fais-la disparaître. »
Elle esquissa de nouveau un mouvement de va-et-vient dans l'air.
« Efface-la. »
Cette fois-ci, il comprit. Elle vit une lueur passer dans ses yeux. Il tendit le moignon rose vers elle. Il était d'un rose parfait, sans une souillure de graphite. Il la fixa, les sourcils arqués, comme pour demander si elle était sûre. Elle hocha la tête. Patrick posa la gomme sur le point noir sur la feuille et se mit à gommer d'abord avec précaution. Puis, voyant ce qui se produisait, il s'affaira avec plus d'entrain. 14. Elle ressentit la même sensation de fourmillement, à la différence près que, lorsqu'il dessinait, elle parcourait tout son corps. Cette fois-ci, elle était localisée en un point précis, à droite de sa bouche. Quand Patrick se mit à gommer avec plus d'énergie, le fourmillement se transforma en monstrueuse démangeaison. Elle dut enfoncer les mains profondément dans la poussière pour s'empêcher de les porter à son visage et de gratter sauvagement, quitte à se déchirer la joue et à inonder les alentours de sang bouillonnant.
« Encore quelques secondes et c'est fini, forcément. Il faut que ça s'arrête. Oh mon Dieu, je vous en supplie, faites que ça s'arrête !»
Pendant ce temps, Patrick semblait avoir complètement oublié la jeune femme. Les cheveux pendant de part et d'autre du visage et le cachant en grande partie, il contemplait son dessin totalement absorbé par son nouveau jouet tellement merveilleux. Il effaçait délicatement. Puis un peu plus fort, la démangeaison s'intensifiait nettement, puis à nouveau doucement. Susanna eut envie de hurler. Tout à coup, la démangeaison était partout. Elle lui brûlait le front, galopait sur ses globes humides de ses yeux comme deux nuages jumeaux de moucherons. Elle frissonnait sur ses tétons, les durcissant instantanément.
« Je vais hurler. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je hurle. »
Elle venait d'inspirer pour pousser un cri sauvage lorsque, subitement, la démangeaison cessa. La douleur avait disparu, elle aussi. Elle leva la main en direction de sa joue, puis hésita.
« Je n'ose pas. »«
Tu fais mieux d'oser, ma fille, » lança d'état avec indignation. « Après tout ce que t'as encaissé, tout ce qu'on a encaissé, il doit bien tester assez de moelle pour toucher ton pauvre visage, espèce de gasse. »
Elle posa les doigts sur la peau. La police. Cette plaie qui l'avait tant tourmentée depuis tonne foudre avait maintenant disparu. Et elle savait qu'en se regardant dans un miroir ou une flaque d'eau immobile, elle ne verrait même pas trace d'une quelconque cicatrice.